Je crois pouvoir dire historiquement ceci. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire.
Nous pouvons changer les conditions de la jeunesse et les conditions de la vie.
Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger.
Ashi Shokiro, poète armé de stylo, réserve de créativité, hangar, silo.
Rap, littérature, révolution.
Bonjour à tous, vous écoutez Radio Canu sur le 102.2, émission Montaigne Was the Thug, rap, littérature et révolution, tous les lundis de 13 à 14. Alors aujourd'hui on innove avec une première séance de ce qui sera, j'espère, une longue série d'interviews, de rencontres avec des libraires lyonnais. Alors voilà, Montaigne Was the Thug, on parle de littérature, on parle de rap, et donc on se doit un peu toucher le truc de plus près avec un libraire qui sera en notre compagnie, Fabien de la librairie Terre des Livres à Lyon. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Et donc voilà, il va nous accompagner pendant une heure. On va parler évidemment de sa librairie, du livre en général, du métier de libraire. Et évidemment, et s'écouter, faire quelques petites pauses musicales à base de rap. Donc Fabien, tout d'abord je vais vous laisser vous présenter peut-être votre parcours, d'où vous venez. Qu'est-ce qui vous a amené à Terre des Livres? Qu'est-ce que vous faisiez avant, s'il y avait un avant, tout simplement?
Qu'est-ce qui m'a amené à Terre des Livres? Je crois que c'est un parcours d'amour de lecteur, enfin de la lecture, l'amour des livres. J'ai été libraire dans des petites librairies. J'ai commencé à la Griffe en tant que bénévole. Bon, je ne suis pas resté longtemps, mais la première fois que je me suis trouvé derrière une table à vendre des livres, et je me suis dit, ça me plaît, quoi.
La Griffe, pour rappeler pour nos auditeurs, c'est une librairie associative lyonnaise d'influence libertaire, on peut dire.
Voilà, tout à fait. Très ancienne, hein, fin des années 70, et qui a un fond quand même intéressant dans ces domaines-là, quoi. C'est une présence. Enfin, Et donc, c'est près de Saxe-Gambetta, rue Sébastien Griffe.
Donc vous avez commencé comme bénévole à la Griffe.
Voilà. Et puis après un peu des petits boulots à droite à gauche, un peu de bouquiniste aussi. Et j'aime bien aussi le côté livre ancien. À un moment, il fallait que je gagne ma vie où je savais pas trop quoi faire. Et un peu par désespoir, je me suis retrouvé dans une grande enseigne lyonnaise, donc deux titres pour ne pas la nommer. L'enfer. Mais c'est bien aussi de ça.
Vous avez fait référence un peu dans votre parcours. J'ai vu ça et que oui, on va y revenir, je pense.
Voilà, moi je trouve que c'est une bonne expérience parce que ça donne des armes et ça donne un peu la rage, quoi. Et en fait, ma problématique, quand je suis rentré là-dedans, très très vite, ça a été, comment j'en sors? Et je me suis dit, le premier jour, tellement le rythme était soutenu, un truc de fou, enfin, machin, je me suis dit, bon, Fabien, tu te donnes entre un an et trois ans, mais tu restes pas là trop longtemps. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est un peu un coup de chance, j'ai eu des coups de chance, quoi, de le dire. C'est rue de Marseille, il y avait une librairie qui s'appelait Alissard, qui était une librairie qui nous plaisait. Quand je dis nous, c'est des gens qui étaient autour de moi, enfin c'était des gens intéressés par des trucs politiques et puis un peu anticolonialistes, enfin des trucs comme ça, qui étaient tenus par une dame. Une librairie arabophone, madame était arabophone, et avec plein de livres, que ça pouvait être sur les Black Panthers, et toute l'histoire de lutte coloniale, un fonds spécialisé Afrique et monde arabe, donc une littérature un peu qu'on voyait pas trop.
Et que vous avez repris, que vous avez conservé d'ailleurs à Terre des Livres.
Voilà, donc moi j'ai repris cette librairie en 2004, et en conservant la spécialisation forte, pas plus trop de livres arabes, parce que moi je parle pas l'arabe et que ça c'est très difficile.
Des livres, vous voulez dire en langue originale arabe.
Voilà, tout à fait, mais par contre plein de choses en traduction et des essais, etc. Donc j'ai conservé ce fonds spécialisé, tout en développant le côté qui existait pas trop avant d'une librairie de quartier de proximité, parce que pour moi l'ancrage dans un quartier est super important et que il y a une vie comme ça qui est la librairie, c'est vraiment de la proximité aussi. Un côté politique relativement marqué, avec la chance d'avoir une salle à l'étage qui permet de faire plein de rencontres, ce que je veux, et puis aussi des livres d'occasion parce que c'est juste à côté des universités, c'est des livres moins chers et moi ça me plaît beaucoup, et les livres d'occasion c'est des livres qui ont cessé de polluer et donc qui continuent de circuler.
C'est de récupération des livres.
Voilà, ça me plaît aussi, quoi.
Donc on a l'impression que très tôt dans votre parcours, un peu l'envie de devenir libraire, elle est liée à une orientation politique, un engagement politique en fait. Ouais. Même à la griffe ou quoi que ce soit, être libraire pour vous, c'est un moyen d'agir politiquement.
Oui, tout à fait. Et en fait, je pourrais raconter l'histoire autrement, hein, ce serait plus juste. Moi, je voulais pas du tout devenir petit commerçant qui doit gérer des tas de trucs un peu chiants. Moi, je voulais faire la révolution. Bon, c'est un peu prétentieux de dire ça comme ça, mais voilà quoi. Ça, c'était clair. Après, il faut se débrouiller avec la réalité, le monde tel qu'il est. C'est pas bien évident, faut quand même gagner sa vie. Et puis, tu essayes d'aller à l'endroit où tu te sens le moins inutile, où tu dis, je peux peut-être faire des trucs, quoi. Et bon, bah moi, c'est un peu... En prenant des murs à droite à gauche, je me suis retrouvé là, et voilà, c'est pas mal.
Complètement, ouais. Non, mais ok, donc cette volonté de lier votre métier à un engagement. Et ça se voit d'ailleurs dans les rayons de terre des livres, vous l'avez rappelé, mais on a donc une grande partie de littérature. Donc alors ça, je me demandais justement, mais vous avez déjà répondu à la question, pourquoi ce choix de se rapprocher des littératures maghrébines, africaines? Et donc ça, vous dites que c'est parce que vous avez repris, c'était un peu l'âme de cette librairie.
Voilà, et parce que j'aimais ça, et parce que je trouve que c'est une littérature très intéressante, et parce que quand on va dans, quelle que soit la librairie, je crois, en France, sauf peut-être des exceptions, on trouve des rayons américains monumentaux, la littérature française tant et plus, et puis alors on a un tout petit peu littérature française d'expression maghrébine, trois Africains qui se courent après, et bon, bah voilà, c'est aussi une vision du monde, quoi.
C'est, on va y venir, le métier de libraire, c'est aussi une manière d'encourager les idées qui nous sont propres. Et du coup, de faire un choix aussi dans ses rayons, qu'est-ce que je vais proposer, et aussi, du coup, qu'est-ce que je vais pas proposer. Et alors, moi, j'ai envie de partir un peu sur cette question. Est-ce qu'il y a des choses que vous refusez de vendre, peut-être, dans votre librairie?
Bah, toutes les conneries de la vie politique française, là, les machins, le scandale ceci, la femme de machin, ça m'intéresse pas. Donc, il peut arriver qu'on reçoive ces bouquins à l'office, ou alors, voilà, le papier.
L'office,
donc c'est en librairie, il y a un système, en fait, où les distributeurs, les diffuseurs nous font des remises plus avantageuses si on joue le jeu, c'est-à-dire on prend toutes leurs nouveautés, c'est beaucoup de grosses conneries. Et alors, il y a des endroits, nous, on est vraiment dans l'optique, on refuse ça le plus possible, mais il y a des endroits où on peut pas refuser. On peut pas choisir l'office, on peut pas choisir ce qui rentre. Donc, des fois, on reçoit des grosses conneries, on les prend, on les met dans la réserve, et après, on les fout au retour dès qu'on peut.
Voilà. Vous les mettez jamais en rayon, c'est ce que...
Voilà. Et après, moi, j'ai une politique quand même, quand je parle de librairie de quartier et de proximité, il y a quelqu'un qui vient nous commander un livre du pire fasciste qui soit, ou machin, ça peut être pour une étude universitaire, il faut pouvoir se rendre compte de tout, on a le droit de lire Mein Kampf, enfin, donc jamais de jugement. Et aussi sur un côté, pour moi ça a toujours été important de dire c'est une librairie doit être ouverte pour tout le monde et tous les goûts. C'est-à-dire il y a des gens, il y a des trucs formidables en librairie, quelqu'un qui arrive, qui peut avoir 20 ans ou 50 ans, bon j'ai pas lu depuis des années, je viens de lire un Marc Lévy, ça m'a bien plu, qu'est-ce que vous pourriez me conseiller d'autre? Ou je veux un autre Marc Lévy. Eh ben, vas-y quoi, il y a pas de souci. Enfin, je trouve que ça c'est génial.
Ça c'est une question très intéressante. Là, vous parlez de Mein Kampf. Je crois que c'est cette année qui passe au domaine public. Ouais. Et donc, par exemple, vous pouvez vous retrouver avec, je sais pas, avec un certain nombre de livres dont vous n'approuvez pas l'idéologie ou la qualité ou toutes ces choses-là, et vous dites que vous allez les conserver, mais j'ai pas très bien compris, ça voulait dire vous allez conserver, vous allez pourquoi pas les vendre, mais est-ce que ça veut dire que vous allez les avoir en rayon, en réserve? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux peut-être?
Oui, ben pas en pile sur table, c'est voilà. Sûr. Et après, je crois que Mein Kampf, la loi française, je crois que c'est le seul livre comme ça, on a le droit de le vendre, mais on n'a pas le droit de l'exposer à la vente, même y compris en rayon. Ah ouais. Donc on peut le servir pour un client, on peut en détenir en réserve si on veut. Mais voilà, c'est bizarre, ça. Enfin, c'est une exception.
Oui,
mais oui, on n'a pas à juger, parce que dans des parcours de lecteurs ou dans des parcours politiques, on voit toutes sortes, des fois, d'évolutions, de revirements, et puis se faire une opinion soi-même hein, sur les textes des ennemis, on a le droit aussi, c'est important, je crois.
D'accord, ok. Moi, ça m'intéressait d'avoir votre avis sur le sujet, parce que je connais des libraires qui disent, par exemple, non, je ne vendrai pas tel livre, parce que je considère que si ces gens veulent aller chercher ça, ils vont le chercher ailleurs, mais pas chez moi. Tout simplement. Ils le trouveront, mais non, pas chez moi. Et j'avais une autre question d'ailleurs sur les livres, vous dites les dernières conneries politiques qui sont sorties. Étant donné que ce sont des livres à plus gros tirage en général, est-ce que c'est pas renoncer à quand même une part d'argent, une grosse peut-être part d'argent, ou même moi j'ai vu certains libraires dire si je vends pas, j'en sais rien, le dernier Zemmour, ce mois-ci je vais rien vendre, voilà. Je vais vendre beaucoup moins. Alors, comment vous placez par rapport
à ça? Moi, il y a un choix en fait où on va vendre des choses qui se vendent bien, enfin, etc. En faisant attention quand même, effectivement, à pas avoir toutes ces conneries là. Le Zemmour, typiquement, quelqu'un me le commande, je le lui sers. Ça peut être tout à fait un camarade qui a envie de voir ce gars-là écrit comme connerie.
Bien sûr.
On n'a pas à juger. Quand à le mettre sur table, c'est autre chose. Alors après, là encore, on peut retourner le truc dans l'autre sens. Moi, j'ai une clientèle formidable. C'est-à-dire que là où il y a des libraires qui vont vendre 50 exemplaires par jour de Merci pour ce moment, voilà, oui. Vous voyez, la copine de notre président d'un moment, là. Et ben moi, j'ai une personne qui me le passe en commande, j'en vends un ou deux sur toute l'année. Je dis, ben voilà, c'est...
une chance, finalement, vous avez l'air ravi.
J'ai des super clients, en fait.
Ouais, mais sans doute que vous y avez contribué à avoir ces clients, et ça, on va sans doute y venir après la petite pause musicale qui s'impose.
Rappel, hein? Quand on vit quoi que ce soit de bien, de imaginer que tout s'arrête. Une petite panique peut remettre les idées en place, mais quand tout est beau, c'est sujet tabou. Cette nuit, je revois les endroits où on s'est connu, les petites disputes pour la taille de tes jupes, les repas partagés. J'écoute les zics sur lesquels on s'est couché ensemble. Une pensée triste et il me semble qu'on ne sait pas aimer comme il faut. Ou en même temps je te répétais sans cesse, tu me fais pleurer, tu me disais attends. Donc en attendant notre cordon ombilical fut rompu, je suis sûrement dû à tes fautes ou mes erreurs, commises puis admis, malheureux. Une bise tout de même, après tout on s'est aimé, mais maintenant c'est fini, n'est-ce un fait suffisant? On joue les malins, on se plaint de la lassitude, puis un jour la solitude rejoint la vie. Ne regrettez pas, d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs, y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Ne regrettez pas, d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs, y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Tous témoignaient de notre amitié chaque nuit devant les portes des nightclubs. Les secrets partagés au fil des actes, les visages ont changé sans songer au pire, jusqu'à ce jour injuste où l'un nous a failli. Ah oui, après c'est sûr qu'il fallait pas, à force de n'en faire qu'à sa tête, on s'en rend compte trop tard. Et admettre la fierté est un mal de l'être, aussi un mal des lettres mal assemblées. Comment communiquer, voir comme on est niqué. Le lait est une source d'ennui public, si c'est passé entre nous, c'est que nous n'étions pas si proches que ça. Qu'est-ce que ça, prendre la main aux amis sans fermer les doigts, y perdre le bras. Ne regrettez pas, d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs, y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Ne regrettez pas, d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs, y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Il est mort, t'es pas d'accord, eh bien profite. Et si mes mots te touchent, tu te discrètes. Je remémore, encore et ça te remémore. Sans ressusciter dans mes propos, pas de métaphore. Qui n'est pas bouleversé d'observer des adversaires qui autrefois chantaient en cœur joyeux anniversaire. Vaut mieux penser aux batailles qu'on a gagnées ou perdues unies. Chaque amitié est unique. Je verse de la liqueur en mémoire de nos souvenirs. C'est l'ivresse des souvenirs qui tient debout. Ne regrettez pas, d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs, y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Ne regrettez pas, d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs, y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Ne regrettez pas, d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout c'est tous ces souvenirs, y'a que les souvenirs qui tiennent debout.
Ne regrettez pas, pas d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout, c'est tous ces souvenirs. Y'a que les souvenirs qui tiennent debout. Ne regrettez pas, pas d'avoir été ami, de s'être aimé un peu, d'avoir connu l'unité. Même si c'est fini, ce qui tient debout, c'est tous ces souvenirs. Y'a que les souvenirs qui tiennent debout.
Vous écoutez toujours Montaigne Oise Tug sur Radio Canus en 2.2. Alors qu'aujourd'hui nous avons entamé une émission sur la librairie Terre des Libres, en Terre des Livres, en ça aurait pu marcher Terre des Libres finalement, en compagnie de Fabien. Et alors que Fabien a fait preuve d'une grande ouverture d'esprit lorsqu'il nous a dit que finalement il pouvait accepter de vendre des livres d'une idéologie contraire à la sienne. Nous allons continuer l'émission en parlant de ce que Fabien appelle dans un très bel article que j'invite tous les auditeurs à lire sur son site. Il a fait une petite rubrique qui s'appelle « Pourquoi des petites librairies ?» qui constitue un article assez long, très clair, où il explique un peu ses engagements et pourquoi il fait la librairie ainsi, pourquoi il fait une librairie. Et dans cet article, il parle de ce que on pourrait appeler, ce qu'il appelle un peu ironiquement, des erreurs de gestion. Fabien, est-ce que vous pouvez expliquer ce dont vous parlez lorsque vous parlez des erreurs de gestion ?
On va parler d'erreurs de gestion, c'était se placer du point de vue des gros fournisseurs, des grands trusts, etc. C'est quand même le monde du livre, il est quand même un peu piloté par ça. Alors en France, ça résiste très très bien grâce à la loi sur le prix unique du livre, qui permet que le prix du livre soit le même partout, ouais, avec cette petite remise de 5% que plein de libraires font très facilement. Et voilà, cette loi quand même, donc loi Lang, 1980, elle permet une diversité de librairies de toute taille, un réseau qui apparemment est unique au monde, et ça c'est quand même énorme. Et de fait, du coup, un réseau de petits éditeurs, pareil, extrêmement dense, avec, enfin, quand vous regardez le nombre d'éditeurs qu'on en découvre tous les jours, qui font des petites choses pointues dans leur domaine, c'est absolument génial. Et si on se place du point de vue d'un grand comme Hachette et des logiques d'Amazon, etc., dans lesquelles il faut pas marcher, c'est que eux, ils ont tout intérêt à vendre un truc à 10 millions d'exemplaires plutôt que 10 millions d'exemplaires de livres à un seul exemplaire. D'un point de vue rentabilité, c'est pas du tout la même. Et qu'est-ce qui intéresse ces gens-là ? Faut pas se raconter d'histoire, c'est la rentabilité. Voilà, donc je dis pas les erreurs de gestion, c'est génial, non. Mais c'est vraiment, comment est-ce qu'on fait un monde qui nous ressemble, où il y a plein de petites choses qui sont permises, et des espaces de liberté, et des paroles différentes, et des pensées différentes? Bah, c'est grâce à ces petits livres qui sont tirés à 1000 exemplaires, qui sont vendus à 600, ça c'est formidable, quoi.
C'est encore... moi je me suis posé une question, mais peut-être que j'ai pas, il y a quelque chose qui m'a échappé, sur cette loi Lang, c'est que comme elle permet de vendre finalement le livre à un prix unique, un éditeur qui fait donc 100 000 exemplaires d'un même livre et qui a son propre libraire, il va pouvoir optimiser un maximum le prix de son livre. Sur quoi est indexé en fait sur ce prix du livre ? Comment on choisit ce prix unique ? Est-ce qu'il est plutôt en faveur des petits libraires ou des grands fournisseurs ? Parce que par exemple, si vous tirez 100 000, mais c'est l'économie d'échelle, si vous tirez 100 000 exemplaires d'un seul livre, vous allez économiser du papier, des coûts, non sûrement pas du papier, mais des coûts de fonctionnement sans doute.
Tout à fait. Oui, je
pense. Et donc, si le prix du livre est tiré vers le haut pour permettre aux petits libraires de quand même, enfin aux petits éditeurs de quand même faire un peu de bénéfice sur ce qu'ils vendent, est-ce que ça avantage pas encore plus les grands fournisseurs? Parce que eux, ils ont un prix qui avantage des gens qui vendent moins et qui ont un coût de production supérieur au leur.
Oui, alors je pense que là il y a plusieurs choses, et puis le domaine de la fabrication des bouquins et de l'édition, c'est moins le mien. Une première chose, c'est que je crois que le prix unique du livre, il y avait eu une étude, l'index du livre, en tout cas pendant plusieurs années, ces dernières années, l'index du prix du livre augmentait moins que d'autres choses de la vie courante, de la vie quotidienne. Et c'est une régulation en fait qui se fait. Voilà, c'est le même prix chez moi que dans une très grande librairie, quel que soit l'emplacement. Après, la rentabilité, les grands, effectivement, ça coûte beaucoup moins cher de fabriquer à l'unité un exemplaire en très grand tirage. Une chose qui est importante de dire, c'est que nous, les petits libraires, on n'est pas en position de rapport de force. Donc là où l'éditeur, il va nous dire, bon, bah, vous, votre mise, c'est 35%, on va passer péniblement à 36%. Les gros, ils sont à 45 ou 50. Enfin, c'est des chiffres qu'on sait pas trop. Mais bon. Et c'est là où
les éditeurs font des plus grosses remises aux gros qu'aux petits.
Voilà.
D'accord.
Donc ça, c'est par contre quelque chose qui n'est pas compris dans la loi sur le prix du livre. C'est ça reste voilà.
Ouais.
Et donc si on joue le jeu, si on prend des offices, ou si on passe des très grosses commandes, ou si notre chiffre évolue, à un moment on va passer de 35 à 36. Alors c'est des petites choses. Hein. Donc quand je dis comme ça 35.
Mais c'est une forme de c'est une manière de soumettre un peu les petites librairies. Leur dire on va augmenter votre remise si vous vendez
l'office si on joue le jeu des opérations des choses comme ça. Oui, bah alors ça c'est le monde commercial tel qu'il est. Je pense que c'est comme ça dans plein d'autres domaines. On n'y peut pas grand chose quoi. Bon, ce qui est beau, c'est quand même nous avec ça on arrive à survivre quoi. Voilà.
Et cette loi langue d'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression que donc présenter ça comme une bonne chose, qui semble une bonne chose. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est attaquée ou qu'elle est pérenne, qu'elle va est-ce que vous avez peur que quelqu'un la dégage, quoi?
Oui, alors oui, c'est une exception. Enfin, on se dit par exemple avec le traité TAFTA, ou même on se disait avec le traité constitutionnel européen contre le
2012,
voilà,
Lisbonne.
qui est passé au Parlement, alors que le référendum avait été contre. On se disait, c'est pas possible que cette exception-là subsiste. Pour l'instant, elle est toujours là. On verra bien. Mais attaquer, oui. Par exemple, il y a quelques années, il y a deux députés à qui Amazon avait dû filer de l'argent en dessous de main, enfin en tout cas, qui sont arrivés en disant, on va faire passer un amendement dans la nuit pour que tous les livres qui sont parus depuis plus de 6 mois, leur prix soit libre. Ça va être génial. Et en fait, ça voulait dire que d'un seul coup, le Balzac, le Rousseau, des choses comme ça. Tous les grandes enseignes allaient casser les prix et nous on n'allait pas pouvoir suivre. Donc d'accord. Ça c'est pas passé, mais c'était un truc. Le SLF, syndicat de la librairie française, tout de suite s'est battu, mais ça s'est joué à peu de choses. Un amendement qui passe dans la nuit au Parlement,
ouais.
Il y a pas grand monde des fois.
Difficile de faire quelque chose contre des fois.
Voilà, mais disons que ce qui est très important de dire, c'est que si cette loi elle saute demain, les 3/4 des librairies lyonnaises ferment dans les 6 mois.
D'accord.
Voilà. Et quand elle a été créée, c'est vraiment, par exemple, Jérôme Lindon, des éditions de minuit qui viennent de la Résistance. Il y a quand même des choses comme ça des gens qui se sont battus pendant des années et des années pour obtenir ça. C'est-à-dire que quand on discute avec des libraires de l'époque, ils étaient là à calculer leur prix au plus juste pour que ce soit correct, en ménageant leur marge. La FNAC cassait les prix. En fait, c'est l'arrivée de la FNAC sur le marché qui a fait que elle baissait les prix. L'objectif de ces grands groupes, c'est on élimine tout concurrent et après en situation de monopole. Et donc ce qui est bien à court terme, puisqu'il casse les prix pour tuer les gens, enfin pour tuer les autres, les concurrents. Typiquement Amazon, c'est ça sur le livre en version originale. Après, quand ils sont en situation de monopole ou de quasi monopole, ou même s'il reste 3 acteurs sur le marché, ils savent s'entendre. Bon ben là, ils fixent les prix et donc nous on paye, on n'a plus le choix.
D'accord. Et du coup, alors voilà, là, on va passer sans doute aux atouts dont disposent encore les petites librairies, les librairies proximité de quartier. Et donc, des atouts que dispose, entre autres, aussi Terre des Livres, qui est, en fait, quelque chose qu'on ne retrouvera pas ailleurs, hein, pas sur Amazon ou des choses comme ça, qui est de proposer un véritable lieu de discussion et de pensée entouré de livres, voilà, mais de lier, l'idée d'avoir un espace de débat à la vente de livres. Et de plus en plus, alors je sais pas, parce que moi il y a 30 ans j'étais pas né, ou à 40 ans, ou il y a 40 ans, mais je sais pas si ça a toujours été le propre des librairies, comme ça, de proposer des débats, vous proposer des rencontres, d'avoir, moi je vois des librairies avec des coins café où les gens peuvent venir parler, discuter. Alors est-ce que ça fait pas couler aussi les librairies, ça? On en avait parlé, on va y revenir. Mais voilà, d'être un véritable lieu de dialogue autour des livres et voilà, et de pensée finalement, des véritables lieux de pensée autour de ça même de quartier, quoi, à l'échelle locale voire micro locale. Donc on a là une vraie force de ces espaces de librairies, de ces librairies. Est-ce que vous pensez que c'est ça finalement qui fait encore tenir les librairies ou pas?
Oui, il y a plusieurs phénomènes, mais la proximité, le conseil aussi, une qualité d'accueil. Ce qu'on a, par exemple, ce que nous, les clients nous disent très souvent, mais c'était délibérément ma démarche, c'est montrer autre chose. C'est-à-dire que parfois, quand vous prenez le train, vous faites plusieurs villes de France, vous rentrez dans plusieurs librairies, vous voyez les mêmes choses, les mêmes tables de librairie exactement, elles sont transposables. Et donc, présenter autre chose qui, moi, me fait plaisir et qui fait plaisir aux gens, bon ben là, il y a quelque chose de génial. Après, alors moi, je suis un peu une espèce de réac sur Internet. Je dis, c'est bien, c'est pratique, mais tout acheter sur Internet, ça aurait quelles conséquences à moyen terme? Toutes les boutiques ferment et tout le monde est là devant son ordinateur, devant l'écran là qui est bleuâtre, à commander des trucs qui arrivent, des mecs qui transportent des trucs en camion toute la journée, des préparateurs de commandes qui sont hyper maltraités. En référence au livre, par exemple, de Jean-Baptiste Mallet en Amazonie, qui a une enquête sur comment fonctionne Amazon, là, un entrepôt dans la Drôme. Enfin, lisez ça si vous avez le temps, c'est absolument édifiant. D'accord. Et donc, ça fait un monde extrêmement triste. Et un des problèmes qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est que les gens sont seuls. Paradoxalement, on a tous ces moyens techniques, les gens crèvent de solitude. Et donc, qu'est-ce qu'ils trouvent dans une petite librairie? Ils trouvent quelqu'un qui va pouvoir leur conseiller un bouquin. Puis petit à petit, il y a des liens qui se trouvent. Ah oui, celui-là, je l'ai bien aimé. Celui-là, je l'ai pas aimé. Et il y a des amitiés. Il y a des choses comme ça. Simplement autour des livres, c'est l'amour des livres, mais ça peut être dans d'autres domaines, l'amour d'autres choses. Avant, il y avait des disquaires. Les disquaires, ça a toujours été des lieux.
Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'a pas bénéficié du prix unique. Et...
Voilà. Il n'y a pas eu de loi. Il n'y a plus de disquaires. Ouais. Et ça, c'est super triste. Les disquaires, moi, je m'en souviens. Quand j'étais plus jeune, ça fumait des cigarettes devant, l'ambiance du samedi après-midi, les affiches de concerts, des choses comme ça. Enfin, c'était quand même quelque chose, quoi. Et enfin, bon, voilà, des lieux où il y a des gens passionnés. Et puis, alors, après, quand la librairie organise des rencontres, toutes ne le font pas. Et nous, on a une petite salle. Ben là, c'est génial parce qu'on peut organiser une rencontre sur tel sujet. Ça arrive qu'il y ait des gens qui viennent, qui après nous des amitiés, enfin échangent avec l'auteur. C'est parfois la parole est super précieuse. Et parfois il y a des gens dans la salle qui se connaissent pas et puis après ils discutent un peu, ils vont boire un coup de café. Puis des fois il y a des collectifs qui se créent, qui vont créer des choses. Alors pas tous les jours, mais quand même c'est des histoires comme ça de rencontres. Et c'est chouette, je trouve. J'appelle des rencontres. Enfin plutôt que c'est pas du tout des signatures. Signatures, ça fait le truc à la con, j'aime pas. C'est-à-dire il y a une rencontre avec un livre, un auteur, des gens dans le public et des gens dans le public qui peuvent se rencontrer. Enfin, c'est beau, quoi. Même si c'est très modeste, même si des fois il y a 10, 20 personnes.
Oui, en tant qu'espace de lieu de vie et de rencontre, la librairie, j'ai l'impression que ça c'est quelque chose de tout à fait nouveau, enfin, tout à fait nouveau, j'en sais rien, mais qui prend une place majeure dans l'idée de librairie, le fait d'avoir des rencontres. Et du coup, le côté café, Terre des Livres ne propose pas de café, de restauration. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose?
Pourquoi pas? Enfin, moi, ça m'embête pas du tout. Ça va bien ensemble, le café et la lecture, hein, d'une certaine manière. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont des projets de librairie café qui souvent marchent pas sur deux jambes. C'est-à-dire qu'ils disent on va faire les deux, mais ils font peut-être ils ont du mal à faire bien le métier de libraire, que moi je trouve déjà extrêmement prenant. Je trouve que c'est bien de faire une chose et d'essayer de s'y tenir. Et souvent c'est à défaut d'avoir suffisamment de stock, parce qu'une librairie il faut quand même avoir. Enfin, si les gens viennent et qu'ils voient un peu toujours le même bouquin et qu'il y en a que 500 ou 1000, vous voyez, à peine plus que chez un gros lecteur, ça va pas le faire, quoi, me semble-t-il.
Parce que Terre des Livres, c'est 11 000 livres quand même, c'est un stock.
Voilà, en neuf et puis un peu moins en occasion, quoi.
Ouais. C'est sûr que ça paraît compliqué. Après, il faudrait engager des nouvelles personnes pour tenir un café. Mais c'était parce que moi, j'avais cette impression que la librairie café, finalement, c'était peut-être l'avenir de la librairie. Mais là, finalement, avec Terre des Livres, on rencontre un autre modèle qui fonctionne, quoi.
Et sur Lyon, il y a une librairie, Raconte-moi la Terre, qui existe depuis longtemps et qui fait les deux. Alors, je la connais pas bien et je peux pas en parler. Mais c'est quand même un lieu, différent et original et qui dure. Ça, c'est satisfaisant.
Bah oui. Donc, ok. Donc, l'importance de retrouver, du lien social à petite échelle qui est créé par la librairie. Du coup, vous semblez assez optimiste, j'ai l'impression, sur sur l'avenir de votre librairie, ou alors est-ce que c'est de votre librairie ou du livre en général? J'ai l'impression que j'ai entendu en tout cas pire comme discours que le vôtre.
C'est vrai qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de discours catastrophistes. Moi, je suis né avec la crise, donc c'est la crise depuis 40 ans. Et depuis que je suis dans le monde du livre, j'entends le livre va mal, c'est difficile, etc. Alors bon, il y a des hauts, il y a des bas. Par contre, ce qui est un truc hyper amusant à constater, c'est que sur l'évolution de la librairie à Lyon depuis 10 ou 20 ans, bien sûr, il y a des librairies qui ont fermé, et puis il y en a d'autres qui se sont ouvertes. Il y a quand même eu toute une génération, effectivement, de librairies qui ont fermé, qui étaient des librairies historiques, comme La Proue, qui était une librairie politique, qui a joué un rôle dans l'après-guerre hyper important, et après, dans la diffusion du surréalisme à Lyon, par exemple. Okay. Voilà. Et tous les militants politiques, La Proue, voilà, ils connaissaient, quoi. Enfin, c'était vraiment le lieu. Bon, elle n'a pas été reprise, et puis après, il y a d'autres lieux qui sont créés avec des gens plus de ma génération. Donc, il y a comme ça quelque chose, ça c'est positif. Mais ce que je trouve super drôle, c'est que oui, effectivement, on nous annonce comme mort très souvent. Et puis, il y a deux grosses librairies qui ont fermé à Lyon, là, en deux ans. C'est Chapitre et Virgin. Mmh. On se dit, ok, d'accord.
Ouais, bah ouais, finalement, ça va pas mal forcément pour ceux qu'on pense.
Ouais, voilà, alors eux, bien sûr, ils étaient là pour faire du fric. Au bout d'un moment, ils se sont rendus compte, ils auraient pu le comprendre avant. Mmh. C'est pas très rentable, la librairie.
Ouais, si.
Bah oui, bien sûr.
C'est beaucoup plus rentable.
Voilà. Justement. C'est des métiers passion, on travaille énormément, on gagne peu, et donc faut pas y aller pour engranger des dividendes, quoi. Donc
finalement, peut-être que c'est paradoxal, mais peut-être que si les bénéfices restent bas, la librairie restera quelque chose ou deviendra finalement uniquement quelque chose que déteindront les petites librairies, en fait, ou les petits libraires comme vous. Si les marges sont peu importantes et que les grands groupes ça ne s'intéressent qu'aux grandes marges, on a peut-être l'espoir finalement que ces groupes lâchent l'affaire et que...
C'est vrai, j'avais pas pensé à ça comme ça. On sait que la FNAC est à vendre ou périodiquement à vendre, par exemple, sur le, sur le côté livre, ça rapporte pas assez.
Bah oui.
Et c'est vrai, ouais, c'est assez amusant. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, par exemple, non, si je parle de tous les confrères libraires, il y a toutes sortes de gens différents qui parleraient pas du tout des choses comme moi. Mais quand même, pour faire ce métier-là, il y a une dimension militante. Voilà. Je dis pas que ce sont tous des gens militants, enfin, dans le sens où on l'entend, mais on fait pas ce métier-là, enfin, c'est un engagement fort. C'est, voilà, c'est un sacerdoce. Donc, voilà.
Ça se comprend tout à fait.
Écoutez, note les mots du conte, conte qu'on raconte quand le soleil vient froid, froid. KFC, avec la plus-value, rachète le volailler, puis exploite le filon, vend frites et sodas, c'est le plan américain, le client est roi, traveling, direction la ZAC, sortie de RMIST quand la nuit est opaque, en temps de crise, la PM entreprise, oublie la finance, les jeunes font du biz, portrait robot du héros, double zéro, ou narcotique, Merco 6, 00, intérieur cuir blanc, toute option, néon fluo, ils veulent ça, quand le soleil devient froid. Écoutez notre les mots du compte. Pas besoin d'être savant, on sait que savant. Et ce bien avant le gang des tractions avant. Naître déshabillé pour vivre habillé et payé. Marqué. Par la planche habillé, scandale. Égal commercial, hier un jockey a dopé son cheval. L'idéal olympique est en flamme. Les états médaillés fabriquent la meilleure cam. Jésus fut vendu pour 30 deniers. Aujourd'hui Judas par les foules est adulé. Adam, Ève, le serpent monétaire est là. Il rampe là quand le soleil devient froid.
Écoutez notre mot du compte, compte qu'on raconte. Quand le soleil devient froid, froid, plus rien ne compte. Écoutez notre mot du compte, compte que je raconte. Quand le soleil devient froid,
quand le soleil devient froid.
Écoutez notre mot du compte, compte qu'on raconte. Quand le soleil devient froid, froid, plus rien ne compte. Écoutez notre mot du compte, compte que je raconte. Quand le soleil devient froid, froid, plus rien ne compte.
Namio, Renge, Kyo font les bouddhis.
piste quand je place ma voix sur la 26e piste. En apnée, scuba, donc tu bats pour pas être tordu comme les locks d'un rasta. Je sais qu'une fille a perdu son âme, son pater pleure, il est trafiquant d'armes. L'homme est un loup pour l'homme et Game Boy avec la vie. Souviens-toi d'Hanoï, la concubine de l'hémoglobine se baigne dans les larmes de Pierrot et Colombine. Parfois, je me demande pourquoi c'est comme ça quand le soleil devient froid.
Écoutez notre mémo du compte, compte qu'on raconte quand le soleil devient froid, froid, plus rien ne compte. Écoutez notre mémo du compte que je raconte quand le soleil devient froid,
quand le soleil devient froid.
Écoutez notre mémo du compte, compte qu'on raconte quand le soleil devient froid, froid, plus rien ne compte. Écoutez notre mémo du compte que je raconte quand le soleil devient froid,
quand le soleil devient froid.
Voilà, vous venez d'écouter MC Solar, Quand le soleil devient froid, sur son album, premier album, Paradisiaque. Donc, Montaigne Was a Thug, émission sur la librairie Terre des Livres aujourd'hui, en compagnie de Fabien. Alors Fabien, finalement, a un discours assez positif, voilà, il est assez confiant, enfin assez confiant. Il est heureux d'être là, il est heureux d'être libraire, il faut le dire, parce que voilà... On peut entendre des discours catastrophiques, les libraires se meurent, etc., etc. Non, lui, il est là, il est content. Et voilà. Et alors Fabien, toujours sur dans le même article voilà, que je recite, parce que vraiment, vraiment, je me dis, allez le lire. Pourquoi des petites librairies parle quand même d'une certaine crise du livre à partir du moment où achète. À racheter Interforum. Enfin, et même, ça a commencé avant, mais l'apogée un peu de cette crise, c'est en 2012, lorsque rachète Interforum, donc Hachette, ce groupe Lagardère, qui a Larousse, Armand Collin, Grasset, Fayard, donc voilà, énormément de groupes, rachète Interforum, c'est-à-dire le Robert, Nathan, La Découverte, Bordas, et voilà, se positionne en... Voilà, de manière hégémonique sur le monde du livre. Alors là, moi, quand je lisais son article, je me suis dit, ah, mais depuis 2012, alors c'est mort, quoi, c'est fini. Mais finalement, vous dites que il y a une résistance citoyenne qui s'est faite par ce que vous appelez, entre guillemets, les nouveaux citoyens conscients. Alors, c'est quoi, pour vous, les nouveaux citoyens conscients
Ouais, alors là, il y a plusieurs choses. Oui. Mais. Ce texte, j'ai dû l'écrire effectivement enfin, en 2012. Peut-être qu'il faudrait recontextualiser, mais grosso modo, ces grands groupes, ils passent leur temps à se vendre et à se racheter, etc. Enfin, c'est un truc, ça change tout le temps. Après, il y a quand même un phénomène de concentration, un peu comme partout. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, qui était très intéressant, c'est que Interforum vendait et Hachette a dit, bah, nous, on peut racheter tout. Et notamment sur le scolaire et l'universitaire, ils étaient en mesure de tout racheter. Et d'être en situation d'hégémonie. Donc là, de ce qu'on disait un peu tout à l'heure, de fixer les prix, enfin, etc. Et la Commission européenne a dit, non, vous n'avez pas le droit d'avoir plus de 50%, enfin, donc, à partager. Bon, cette tendance à l'hégémonie, hein, comme, enfin, qu'on voit à travers le monde, hein.
En oui, fait, dans tous les secteurs.
Évident. Alors après, nouveau citoyen conscient, c'est une expression bizarre, je sais pas si je dirais ça comme ça maintenant, ce qu'on a vu quand même, il me semble très clairement en librairie, c'est qu'il y a des clients qui sont un peu revenus en librairie. Alors notamment quand je parlais de En Amazonie de Jean-Baptiste Mallet, ce très jeune journaliste qui est allé se faire embaucher dans cet entrepôt Amazon où les journalistes n'avaient pas le droit d'entrer. Donc lui, il a vraiment galéré pour rentrer et il a galéré quand il était dedans aussi. Après, il y a des gens qui l'ont vu à la télévision, il y a des gens qui ont lu un article qu'il a fait dans le monde diplomatique, alors notamment les gens du monde diplomatique qui lisent attentivement et qui essayent de tirer des conclusions un petit peu dans les actes. Et puis son bouquin, donc qui a eu un grand succès aussi. Et je crois qu'il y a des gens qui sont revenus et on voit quand même des gens qui passent à la boutique. Bon, je commandais sur Amazon avant, mais en fait, j'ai compris que c'était quand même pas terrible, quoi. Puis ils payent pas d'impôts en France. Il y a eu ça aussi, là. Alors bon, à quoi ça sert l'impôt? On en pense qu'on en pense, mais enfin, quand même, ils utilisent les routes, mais ils contribuent pas à, voilà, ils utilisent tel réseau. C'est tout ça, c'est passionnant. Et donc, des gens qui cherchent des solutions à ça, là, dans leur petite vie quotidienne, et puis qui reviennent vers nous. Et alors, il y a un parallèle qui se fait pas trop, par exemple, mais il y a eu quand même tout un développement des circuits courts, du commerce équitable. C'est-à-dire, le raisonnement, me semble-t-il, c'est la manière dont je consomme, le choix que je fais dans mes achats, où est-ce que j'achète, etc. Ça change des choses un petit peu sur le monde. C'est pas comme ça qu'on va faire la révolution. Mais enfin bon, ça peut un petit peu préserver, quoi. Ce raisonnement-là, chez des tas de gens, il est assez, enfin, voilà.
Il touche.
Voilà, ça marche, quoi. Ils achètent pas forcément tout chez le petit épicier bio du coin qui peut être plus cher, enfin ça, mais il y a quand même eu un mouvement spectaculaire.
Une prise de conscience.
Ah ouais, énorme. Dans le 7e arrondissement, donc l'arrondissement de la librairie, on a 4 épiceries bio qui fonctionnent, enfin, ou peut-être même 5, mais dont 3 qui sont tenues par des gens, qui c'est pas du tout des grandes chaînes et tout ça. Il y a des grandes chaînes à côté qui sont là, et puis, il y a 3 trucs hyper importants, enfin, où ça tourne, où il y a du monde, enfin, c'est vachement chouette. Et voilà. Et alors, il y a quelque chose d'étrange pour moi, c'est que dans la culture, les gens réfléchissent moins à l'impact de leur achat. Ils se disent pas, tiens, si je commande à la librairie du coin, bah ça fait vivre des gens qui travaillent dans le coin, qui sont aussi clients d'autres commerces dans le coin, et puis finalement je les croise, et puis ça peut être sympa, puis ça peut éviter que le local là, finalement, il soit transformé en habitation pour loger des gens en rez-de-chaussée. C'est quand même pourri, des logements pour étudiants en rez-de-chaussée dans le 7e arrondissement et qu'on loue super cher, ça pullule, quoi. Okay. Voilà, ça c'est pas très intéressant.
Dans la culture, les gens, je vous dis que quand ils consomment des livres, finalement, les gens réfléchissent moins à ça que, par exemple, quand ils achètent des légumes.
Ah, moi, j'ai ce sentiment-là, quoi. Ouais. Je sais pas s'il faut dire tous les gens, est-ce que c'est les mêmes qui, voilà, mais on entend des choses parfois étonnantes. Hein. On avait fait une rencontre à la librairie avec un mec sur le numérique, enfin, toutes ces évolutions. Et lui, il disait, mais moi, de toute manière, je commande sur Amazon, c'est trop pratique. Et moi, j'ai envie de lui dire, mais toi, t'es un peu un con, quoi, parce que tu fais un bouquet là-dessus, enfin, un repère à la découverte, tu vois bien les impacts, tu connais exactement, enfin, toutes les conséquences, mais donc, voilà. Tu t'en fous. Et, mes confrères de la librairie Passage qui sont, moi, je suis un bébé libraire, c'est des gens qui sont dans le métier depuis très très longtemps et qui ont vu des évolutions longues. Ils disaient, du jour où Internet est arrivé, alors j'espère ne pas déformer leurs propos, c'est tout, mais du jour où Internet est arrivé, on n'a plus vu les universitaires en librairie. Voilà. Et alors ça, c'est intéressant. On en voit, mais dans un quartier universitaire comme le mien, on n'en voit pas tant que ça non plus. C'est une petite librairie qui a un profil particulier, mais et c'est les mêmes qui vont arriver en disant, ça serait bien que vous ayez mon bouquin qui est paru sur l'épistémologie chez Cartala, 35 €. Oui. Et lui, il va tout acheter sur Internet. Et il nous le dit, là, devant le comptoir, en passant, quoi, sans se rendre compte que faut être un petit peu plus conséquent que ça. Voilà, quand je parle de conséquences, là, j'ai
cet exemple-là. Ouais, peut-être que c'est à réfléchir, ouais, peut-être ça. D'accord, ouais. Bon, je vois bien ce que vous voulez dire, ouais, ouais. C'est possible, d'ailleurs. Et donc, du coup, la numérisation du livre, vous en pensez quoi?
Oui, alors je me tiens pas très au fait de ça. Moi, je pense qu'il y a toujours une multiplicité des usages. Enfin, on voit une évolution, hein, bien sûr. J'ai des amis. Bon, ils partent vivre à l'étranger pour telle raison. Ils me disent, je peux pas emmener ma bibliothèque. Et je veux continuer à lire. Ils emmènent le machin. Des gens qui partent en vacances pour longtemps. Enfin, des choses comme ça. Après, à ce que j'entends pour l'instant, c'est pas la révolution attendue, quoi. Comme toujours, ils nous annoncent, mais ça va faire des progressions folles. Bon, oui, on voit des gens qui ont ça.
C'est vrai, ça, oui, j'avais une étude. C'est vrai que la disparition du livre, ceux qui l'ont annoncé ne l'ont pas vu venir aussi vite qu'ils pensaient qu'elle arriverait. Mais est-ce que ça veut dire que ça va jamais arriver? Ça, je sais pas. Et moi, par exemple, je m'interroge. Et de la même manière, c'est là, en fait, plus encore que les grands groupes et les choses comme ça. C'est peut-être la menace la plus grande qui pèse sur la librairie. Parce que si on passe à tout numérique au niveau des livres, la librairie, même si ça propose un espace de discussion, de rencontre au sein d'un quartier qui est très intéressant, ça ne pourra pas résister si tout le monde prend l'habitude finalement de télécharger son livre.
Alors, il y a, par exemple, on travaille de plus en plus sur des écrans. C'est vrai, enfin, quel que soit le métier. Oui, oui. Moi, personnellement, les écrans, j'en peux plus. Enfin, voilà, je fais un métier où je suis pas tout le temps le nez devant un écran, mais quand même, quoi. Et on entend aussi plein de gens dire, ah non, mais lire chez moi le soir devant un écran, pas possible, quoi. Ça me rappelle le boulot, ça épuise les yeux. Enfin, il y a quand même ça aussi. Donc, je pense, par exemple, l'universitaire, il se dit, bon, c'est quand même vachement pratique que j'ai ce bouquin qui est complètement épuisé, que j'ai chopé par la BNF, enfin, je sais pas, quoi. Et puis je peux faire des recherches croisées, enfin, sur des mots précis, etc. Ça, c'est génial. Et puis, c'est quand je voyage, c'est pratique d'avoir ma tablette parce que voilà, je peux pas voyager lourd. Et puis, par contre, le soir, non. Enfin, moi, je crois comme ça à une espèce de multiplicité des usages.
Finalement, peut-être que les gens auront les deux, c'est ça aussi.
Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Après, le livre, très clairement, on garde une fonction et on l'a peut-être plus qu'avant enfin, le livre cadeau. Les gens s'offrent des livres, quoi. Et c'est vrai qu'on s'offre pas un fichier. Ouais. Enfin, ça c'est.
À quoi que si, ça se fait de plus en plus.
C'est vrai, ça s'est fait. Oui, moi, j'ai jamais vu.
Peut-être pas pour les livres. Ceci dit, mais on a de plus en plus de cadeaux sous forme électronique, hein, je trouve, ouais. Qui se font après. C'est... Mais oui, c'est vrai, le livre cadeau, ça c'est. D'ailleurs, je m'étais posé une question, mais à titre personnel, voilà, ça, c'est un peu hors du débat. Mais est-ce que le plus gros du chiffre d'affaires d'une librairie, c'est pas le cadeau?
Pas le plus gros, mais par exemple, le plus gros chiffre, c'est celui de, enfin, en termes de mois, c'est celui du mois de décembre. Et au mois de décembre, on n'en peut plus des paquets cadeaux. Enfin, ouais. On en fait peut-être des centaines par jour. C'est quelque chose de fou. Alors, donc, c'est pas l'essentiel, mais c'est vrai que c'est un pilier avec l'autre pilier qui peut être l'universitaire et scolaire, l'autre qui va être l'amour de la littérature, et puis après, bon, la BD, la jeunesse. Enfin, voilà, il y a tout ça ensemble qui se mélange, quoi. Je voudrais faire une référence. Finalement, je cite plein de librairies, mais c'est vrai qu'en tant que libraire, on est dans un horizon de librairie amie. Oui. Et il existe une librairie qui s'appelait Appui d'un titre, qui était une librairie militante à sa manière, mais chouette, qui était quai de la Pêcherie, là où il y a des bouquinistes en face. Et elle avait fait un marque-page qui disait, je vais pas retrouver la formule exacte, mais une invention formidable qui consomme pas d'électricité, qui dure extrêmement longtemps, etc. Enfin, c'était le livre. C'est-à-dire, quand on y pense, ce petit objet carré comme ça, enfin, rectangulaire, avec une épaisseur, qui est souple, qui permet des tas de choses, on peut prendre des notes dessus, on peut plier la page, on peut mettre en main. C'est aussi une belle invention, quoi, qui va pas disparaître du jour au lendemain, c'est sûr.
Ouais, mais d'ailleurs, j'ai l'impression que ça va de pair avec le fait que la lecture, ce soit une des choses qui résiste le plus à la logique de consommation. On consomme difficilement un livre, en fait, parce qu'on peut le relire, enfin, consommer au sens où, une fois que je vais l'avoir lu, le livre, je vais le jeter, en fait, il va disparaître. Enfin, je vais pas le jeter, mais je vais plus m'y intéresser. Et voilà, ça va être une consommation, une logique de consommation. Plus rien ne va rester, ça va être du one shot, un coup. Voilà, je lis et terminé. Et donc, la lecture, c'est finalement, parce qu'il y a les idées dans la lecture, il y a tout un tas de choses qui restent et, peut-être que la littérature, c'est quelque chose qui prend du temps à se créer et qui est le résultat souvent d'un long travail de l'auteur. Donc, ça contient un nombre formidable, finalement, d'idées. Donc, c'est une des choses qui résiste le mieux au processus de consommation. Et le livre, l'objet livre lui-même, c'est quelque chose qui se détruit pas, quoi. Pour que le livre soit détruit, il faut avoir un incendie ou ça résiste aussi à l'usure du temps. Donc, je trouve qu'il y a deux choses qui vont ensemble. C'est à la fois la lecture, quelque chose qui est difficilement consommable. Et le livre, c'est aussi quelque chose qui dispose d'une usure, d'une durabilité très longue, d'une usure très difficile. Et finalement, l'objet livre et la consommation de la lecture, c'est deux choses qui sont liées. Peut-être que si on perd l'objet livre, on perdra aussi le fait que la lecture soit difficilement un objet de consommation. Je sais pas.
Oui, mais c'est très intéressant. La lecture résiste à la société de consommation. Et résister à la consommation, société de consommation. Très souvent, ça se fait par la lecture. Enfin, souvent, les gens qui lisent beaucoup sont là-dedans, quoi.
Peut-être, oui.
Il y a quelque chose. Il y a un truc qui est intéressant, je trouve, sur des fichiers numériques, c'est que quand quelqu'un a une bibliothèque numérique, un grand lecteur qui a plein de trucs, le jour où il décède, les gens n'héritent. Enfin, sa famille n'hérite pas des droits. Enfin, il peut pas réutiliser le fichier.
Ah, j'ai pensé à ça, ouais.
Et on peut pas transférer le. Voilà. Et quand même, dans le livre papier, il y a ce truc.
On ne fait rien, en fait. On ne fait rien. Si on hérite d'un tas de fichiers, on ne fait rien. Alors que si on hérite d'une bibliothèque, peut-être.
Voilà.
C'est pas la même chose.
Mais il y a combien de livres qui sont parvenus dans nos mains parce que ça a été acheté à Taylor en 1900, puis ça a été vendu, puis après c'est passé dans la famille, puis quelqu'un a récupéré ça, et puis tac, et ce livre-là, il aboutit dans nos mains. Il y a un côté comme ça qui est assez... Enfin, une trace de l'histoire, un parcours qui est assez magique, je trouve. Et par contre, là, dans ces fichiers qui n'appartiennent plus à personne, enfin qui disparaissent au décès de la personne, on se dit, ah, la mémoire, la fonction d'une société sans histoire, enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là.
Tout à fait, oui.
Et par contre, les livres papier, quand même, je crois que je lis un livre, il m'a bien plu, et puis il y a un copain qui passe par là, et tiens, tu devrais lire ça. Tout le monde fait un peu ça, quoi. Ou alors on va l'offrir, il y a des gens qui vont offrir un autre exemplaire pour l'offrir. Puis en fait, le copain, il me le rendra jamais. Mais lui, il va le prêter à quelqu'un d'autre, puis après, ça va traîner à la bibliothèque pendant 10 ans de quelqu'un, et puis...
Ouais, c'est tout à fait juste. Donc, on espère que le livre papier va résister encore longtemps et voir pour toujours.
Bah, moi, j'idéalise pas le livre papier, mais bon, c'est vrai que je l'aime bien, quoi. Et après, sur des évolutions longues comme nos vies, enfin, moi maintenant j'ai 40 ans, on a entendu des discours catastrophistes. Comme quand j'avais 20 ans, il n'y avait pas Internet. Enfin, je veux dire, l'évolution soi-disant très rapide. Bon, finalement, le monde change un petit peu, oui, effectivement.
Donc alors on va peut-être terminer cette émission du jour avec une dernière question, tout simplement la question qu'on pose souvent à un libraire, c'est quoi votre livre du moment, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous conseillerez?
Alors moi le livre que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps, c'est qui va paraître le 1er octobre, c'est Yann Levinson. Alors de manière générale, la rentrée littéraire m'emmerde, donc je me casse pas trop la tête à lire plein de trucs. Ça, c'est un auteur que j'aime bien, et donc là son dernier qui va paraître, c'est un mec qui avait fait Tribulation d'un précaire et Un petit boulot. Tribulation d'un précaire, ce mec-là est américain. C'était tous les petits boulots qu'il avait fait dans sa vie, mais des trucs de fou. Il se retrouvait sur un bateau dans la banquise pour pêcher des poissons. Enfin, extrêmement drôle. Et Un petit boulot, c'était un mec qui était dans une zone complètement sinistrée où il avait un boulot de merde et il perdait son boulot de merde. Il disait, putain, qu'est-ce que je fais maintenant? Et il récupérait un flingue, et donc ça partait en vrille, quoi. Et ce mec-là, il est drôle, il a vraiment une espèce d'humour, et il critique avec le rire la société américaine. Et donc son dernier est dans la lignée de ces deux-là, alors qu'entre-temps, il y en a d'autres que j'avais moins aimé, moi, personnellement.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup, Fabien, pour votre intervention à Radio Canu, à Mountain Was the Tug. Je conseille à tous les auditeurs de se rendre expressément à Terre des Livres pour rencontrer Fabien et pour acheter des livres surtout. Et voilà.
Et ben merci à vous et merci à Radio Canu et longue vie Radio Canu, et il faut donner de l'argent à Radio Canu.
Tout à fait, Fabien, la leçon du jour. Donc voilà, je vais vous laisser avec le titre de Kassem Wapalek, hein, lyonnais lui aussi. Pas de doute.
Ah ouais. Yeah, micro, test. Buzz, bonjour. Ici Vincent.
Check. Ha.
Ha. Écoute ça mec, check ça mec. Cassez-moi pas mec, c'était à la poisse. Écoute ça, goûte ça, pas de doute, ça shoot sec. Check ça mec, ça pète sa mère. En temps de se mort, un peu de semelle, tes potes se marrent. Y'a pas de ciment, ni de scénar. Les putes se meurent, et notre se mort. Pète sa mère, fais leur écouter si tes potes s'emmerdent. Mec, écoute ça, goûte ça, pas de doute, ça shoot sec. Check ça mec, ya. J'ai calé mes lettres au millimètre comme le montre, c'est mille mots qui s'en met la mort. J'assomme les mecs et ça met la mort. Mais c'est moi le Mac en semant des mots indécents. Je sème des marques de sang. En somme des mecs décèdent. Et c'est moi le Mac d'ici, du sommet du monde ainsi. J'élimine les traîtres. Va dire à ceux qui voulaient me la mettre que c'est moi le maître. Et si Kassem a le mic, c'est pour assommer les wacks. En semant des mots qui claquent, mec, c'est minimum 100 000 watts. Alors, je le level au max. J'innovais le maxi que le max sort. Vaut mieux que ceux des autres sacs. Tout le monde sait, je ne m'extasie pas sur tes pas hip hop, tes sapes, ton hip hop. Tes soi-disant potes regardent, ils ont peur. Je pose à peine et pas à pas. Les faux apôtres puisent et partent. Mais partout, dans les mixtapes ou les mixtapes, un trip trop style gangsta, je le constate, trop le constate. De quoi tu voulais qu'on se teste? Allez, casse-toi, pas les constats, mais qu'on stoppe les cons. Texte concerne tous les consorts qui me consternent en concert. Mon flow flingue des concerts, ça tue comme dans les westerns. Certes,
lève ta tête, bouge là. Mais surtout, serre-t'en sur terre, certains serpents te sortent une serpette et te surprennent. Surtout, sors pas, sors pire, ces serpents n'en servent pas de serpillère à ton propre sang. Je crois que c'est tout et c'est à peu près ça. Souvent trop pressé, on rate sa vie au lieu de l'apprécier. Tu subis la pression, la répression, l'oppression, l'impression d'être en dépression. C'est la récession et tu parais soucieux. C'est la paresse aussi, cela paraît si simple. La croissance, c'est ça leur obsession. Moi je n'ai confiance qu'en nos rap sessions. Ouais, je suis né en France, mais je parle aussi la rap, c'est sûr. Soit dit en passant, attrape ceci, mon rap est crap ici. Je veux que tout le monde soit rêve avant la fin de soirée. Donc faut un set carré, tu veux un son de taré, des mots issus de ta rue. Moi j'ai un set terrible, comme les Santares, où tu pensais tirer mes chansons de terrasse. C'est hallucine, t'es raide, la putain de ta. Tu veux un son de taré, des mots issus de ta rue. Moi j'ai un set terrible, comme les Santares, où tu pensais tirer mes chansons de terrasse. C'est hallucine, t'es raide, la putain de ta. Cassez-moi pas l'aigle, austère la poisse, buzz DTL, prends ça dans ta face.